Accès libre avec Luc Fortin.
Salutations tout le monde, lundi 16 septembre. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler entre autres de couture, de théâtre. On va faire l'épicerie et encore des parents qui cherchent du répit. Ça, je pense que si on voulait, on pourrait parler de répit et de proches aidants chaque semaine. C'est une tendance sociale qui mérite d'être explorée et entendue. Comprenez qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'aide, soit parce qu'ils ont besoin de repos ou parce qu'ils sont plus ou moins autonomes. Monsieur Laliberté, bonjour.
Bonjour, Monsieur Fortin.
Ça va bien?
Ça va très bien, et vous?
Oui, merci. Ma petite eau gazéifiée, citronnée à côté. On est prêt pour une autre heure de Accès libre.
Yes.
Jason Patoineau, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on vous a laissé le temps de dîner, vous qui êtes une heure plus tard que nous?
Non, c'est correct. J'aime mieux faire ça sur un ventre vide, plus performant.
Mais c'est pas parce que vous manquez de bouffe, là. Vos allées sont regorges de produits. Il est directeur des communications chez, Sobeys Atlantique?
Non, en fait, Sobeys IGA, mais okay. pour tout le pays, quoi.
Oh, wow! Ben là, je m'incline. On va l'appeler monsieur.
Pas nécessaire.
Les maritimes, peut-être juste expliquer aux gens pourquoi on se parle. Les maritimes ont choisi de prendre le pari d'offrir dans leur succursale Sobeys des heures d'ouverture pour les personnes ayant des sensibilités sensorielles. Donc, tous les dimanches de 18 à 20 heures, on baisse la lumière, on baisse la musique. J'imagine qu'on parle moins fort lorsqu'on a besoin du commis des viandes, ligne 1. D'où est venue la demande?
Oui, en fait, c'est une excellente question. Comme vous disiez, c'est un programme qu'on a implanté maintenant dans tous les magasins Sobeys dans les provinces atlantiques ainsi qu'en Ontario.
Ah,
là,
oui,
c'est en train d'être déployé également. Tout ça a émergé d'un appel qui a été reçu par un magasin là, de Bathurst au Nouveau-Brunswick. À l'île du Prince-Édouard. Uh-huh. Et c'est la société d'autisme locale qui avait contacté le magasin en question pour proposer ce programme-là. Et le magasin a décidé là, de faire le test. Et force est de constater aujourd'hui là, que ça a été quelque chose de très bien reçu. Et quand on parle là, justement de gens avec des sensibilités ou hypersensibilités sensorielles, c'est vraiment un vaste spectre de gens allant des gens qui vivent avec le spectre de l'autisme ou d'autres mêmes sensibilités. On n'a qu'à penser également peut-être aux gens là, qui sont des personnes âgées, des gens pour qui, là, justement, des fois sortir dans des endroits comme ça où c'est très bruyant parce que seul les bruyants.
Quand
on s'arrête là, à y penser là, puis qu'on se met à réduire, que ce soit l'éclairage, que ce soit le son, la musique, les intercoms, les scanners, le bruit des paniers, on se rend compte là, que c'est excessivement bruyant. Et puis ça a été très bien reçu. Puis on pense que c'est une façon également de redonner à la communauté qui nous donne énormément là, partout au pays.
C'est peut-être l'avantage justement de plus petit patelin, c'est que le commerçant est plus près de sa clientèle, donc prend le temps d'écouter son besoin et ensuite, le besoin fait des petits et les réussites font des petits. Peut-être que si on avait commencé à Toronto, c'était un petit peu plus difficile. En même temps, comment on reçoit ça? Je veux dire, c'est quoi? On a regardé les chiffres de vente sur l'île du Prince-Édouard puis on s'est dit, ça ne nuit pas, on va essayer de prendre, de se positionner?
Mais en fait, là, c'est que ça a aucun lien avec les chiffres de vente.
Okay.
Quand une décision comme ça est prise, c'est vraiment pris en fonction de l'impact que ça peut avoir positivement sur la communauté, sur ces gens-là qui souffrent d'hypersensibilité. Faut pas penser là, que tout ce qui est fait est en fonction d'un profit. On pense que l'expérience client est un élément qui est fort important. Puis quand on parle d'expérience client, ben tu sais, il y a façon d'aller dans le plus granulaire puis de voir comment est-ce qu'on peut vraiment répondre aux besoins de la population et de tous les types de clients. Et vraiment, c'est comme ça que cette initiative-là est partie. Puis c'est pas la seule, c'est pas l'unique. Vous mentionniez là que ce projet-là est parti justement d'un magasin à l'île du Prince-Édouard. Il y a certains projets parfois qui partent de d'autres magasins qui sont situés dans des grands centres. Mais là, vraiment, la beauté d'une entreprise comme Sobeys, comme IGA, c'est qu'on est une entreprise vraiment présente d'un océan à l'autre. Donc, quand il y a une belle histoire ou une belle pratique qui se fait dans un marché, ben on est capable de la répliquer et puis de l'essayer ailleurs. Et donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui là, de quelque chose qui est parti d'un petit magasin à l'île du Prince-Édouard et qui maintenant se promène un peu partout au Canada. Et d'ailleurs, au Québec, on est en train d'évaluer également comment on peut l'implanter dans nos marchés, si vous voulez.
Mais lorsque vous dites, on essaie de regarder comment implanter ça, je veux dire, quelle serait la différence? Pourquoi ne pas prendre simplement la même formule puis dire « go »?
Ben en fait, c'est sûr qu'on a une responsabilité aussi comme épicier de s'assurer que ça fonctionne d'un point de vue clientèle, ouais. Parce que on doit à un moment dans la semaine, dans la plupart du pays là, c'est les dimanches entre 18h et 20h, donc il y a quand même une sensibilisation à faire auprès de la clientèle. Okay, ouais. Et également, on veut travailler avec nos marchands affiliés parce que vous comprendrez qu'au Québec, avec IGA, on a un réseau très étendu de marchands affiliés avec qui on veut travailler au courant des prochains mois à ce sujet-là. Mais on veut commencer là plus dans les magasins qui sont des magasins qui sont corporatifs pour voir justement comment le déployer. Parce que quand on commence un programme comme ça, on veut bien faire les choses.
Ouais. On
veut pas faire les choses à moitié. On veut pas créer un environnement qui serait pas idéal. Donc, si on le publicise de cette façon-là, il faut que quand une personne qui souffre d'hypersensibilité sensorielle rentre dans le magasin, qu'elle vive l'expérience à la hauteur de ses attentes. Donc, on n'est pas dans l'improvisation et c'est pour ça qu'on veut être prudent de la façon dont on va l'implanter.
Bon, l'été, ça m'apparaît assez simple parce que le soleil se couche tard. L'hiver, je ne sais pas à quel point on diminue la luminosité, mais est-ce que ça cause des ennuis? Est-ce qu'on est obligé de, disons, d'abaisser la luminosité un peu moins que ce que l'on offre comme réduction l'été, justement, à cause de ça?
Bien, en fait, c'est sûr que la chose la plus importante, c'est la sécurité des clients dans le magasin. Là. Donc, on veut s'assurer que les gens puissent voir devant eux. Là. Donc, la règle, si vous voulez, là, c'est de diminuer de 50% l'éclairage. Donc, c'est vraiment l'éclairage en magasin. Donc, on ne tient pas compte ici là, de l'éclairage extérieur. Là.
Non.
Mais c'est vraiment l'éclairage en magasin. Donc, 50%, c'est quand même important comme réduction.
Ah ouais.
Mais on s'assure là que le tout soit fait de façon sécuritaire. Puis comme je disais tout à l'heure, une des autres choses qu'on fait, c'est entre autres le bruit qui est fait avec les paniers, par exemple. Donc, vous savez, des fois, on a nos employés qui vont aller chercher les paniers dans le stationnement, ouais. Qui vont les ramener à l'intérieur. Et lorsqu'on emboîte les paniers un dans l'autre, mm-hmm. C'est sûr que ça fait beaucoup de bruit. Donc, on s'assure qu'avant l'heure de début, si vous voulez, de cette période-là, que tous les carrosses ont été ramenés à l'intérieur pour éviter ce bruit-là là, pendant que les gens sont dans le magasin. Même chose dans les rayons, moins de bruit dans les rayons. Également, le téléphone entre les services, comme vous disiez tout à l'heure, les annonces se font peu ou se font pas. On coupe le son, la musique, les téléphones, les scanners aussi quand on arrive à la caisse et puis qu'on doit passer les aliments pour les scanner pour avoir le prix. À ce moment-là, on coupe ou on réduit le son de ça. Donc, c'est vraiment une expérience qui est spéciale. Et puis, tu sais, même pour les gens qui ont passé une semaine très occupée, tu sais, dans le brouhaha de la mm-hmm, journée, mm-hmm. Et puis qu'on arrive dans un environnement comme ça, des fois, ça peut être très apaisant.
Surtout le dimanche, avec les jeunes à la maison, puis tout ça, là, t'as peut-être... Sauf que parfois, il y a moins d'employés le dimanche à cette heure-là. Je sais pas si... On craint un peu parce que, en tout cas, moi, j'avoue que c'est le genre de truc qui me plairait, si ce n'est que pour entendre moins les fameux chanteurs, chanteuses qu'on entend tout le temps dans les épiceries. Ça peut être un plus. Est-ce que, c'est à part là, les clients qui sont le public cible, est-ce qu'on remarque que d'autres disent « Wow, quelle belle idée », même s'ils n'en ont pas nécessairement besoin?
Oui, d'ailleurs, les employés en partant sont très à l'aise avec l'initiative parce que pour eux aussi, c'est un environnement qui est agréable.
Vous imaginez, là, entre novembre et décembre, Jason, 2 heures, pas de musique de Noël, les employés vont capoter.
Oui, écoutez, je vais retenir votre suggestion, je trouve ça intéressant, peut-être qu'on l'étendra à plus longtemps, mais blague à part, non, de façon générale, je voudrais que les commentaires, autant des gens qui viennent à cause du programme, que les gens qui arrivent là un peu par accident puis qui se rendent compte qu'il y a quelque chose de spécial dans leur épicerie, je voudrais que les commentaires sont super positifs, puis c'est pour ça d'ailleurs que on a vu ce programme-là qui a commencé à l'Île du Prince-Édouard puis qui, là, maintenant, est ailleurs au pays. C'est pour ça aussi qu'on voit une certaine implantation ailleurs. Ouais. Mais on pense, en tout cas, que c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose de pas... Oui, c'est complexe, mais on a la capacité de le faire. Pourquoi ne le ferait-on pas pour essayer d'aider des gens qui vivent avec des conditions qui sont particulièrement, des fois, éprouvantes? Et, tu sais, c'est un petit baume dans leur journée, dans leur semaine. Ça peut leur permettre également de sortir, parce qu'il y en a qui peuvent être craintifs aussi de sortir, puis d'aller dans des endroits publics très bruyants. Alors, on pense que c'est quelque chose qu'on peut faire, parce que les gens visitent nos épiceries régulièrement. Tu sais, c'est une nécessité, là, d'aller à l'épicerie pour se procurer des aliments. Donc, on veut essayer de rendre ça le plus agréable possible pour tous ces gens-là.
Ben, j'ai envie de vous dire bravo. J'imagine que les associations, c'est sûrement un mouvement bien reçu. Et si on parle de, bon, c'est facilitant, c'est plus agréable pour une partie de la population, je vous dirais également que si ce n'est que dans la psyché de dire, wow, il y a du monde qui pense à mes besoins, ça fait du bien de se sentir accueillir dans une société où les décibels et le tape à l'œil visuel, finalement, se rivalise malheureusement de compétition. Moi, je sais que c'est souvent la réaction, bon, je suis une personne aveugle, puis quand j'entends de la vidéo description, je me dis, ah, il y a quelqu'un quelque part qui a pensé à moi, puis bon, maintenant, ils sont obligés, mais à l'époque où ce n'était pas le cas, j'avoue que ça me touchait, même si je ne regardais pas nécessairement le programme en question. Donc, ça fait
puis
du bien.
C'est toujours, puis vous avez raison, puis c'est toujours ce que vous faites quand on vous exige pas de le faire.
Oui.
Qui rend la chose encore plus louable.
Ben, et comme puis, les contenants réutilisables chez IGA.
Exactement. Ah, ouais. Moi, je désire saluer aussi là, tout le travail des gens qui ont fait ça, qui ont entamé ce projet-là dans les maritimes, puis qui aujourd'hui là, nous positionnent favorablement dans ce dossier-là. Puis les employés également qui y participent, parce que c'est très humain comme approche. Et puis moi, ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que j'aime beaucoup travailler pour cette entreprise-là. C'est parce que je vois justement des gestes concrets comme ça qui sont faits pour essayer d'inclure les gens. Puis je pense que c'est très important dans la société d'aujourd'hui.
Il est directeur des communications nationales chez Sobeys IGA, Jason Patoineau. Merci beaucoup.
Merci à vous. Passez une très belle journée.
Trying to start a fire in the pouring rain. All that work for just a little flame. Relying on fireflies to light the night. All of those flies, but it's not bright. Living on the corner of better and stuck. What will I choose? Living on the corner.
efforts all in vain.
Living on the corner, better and stuck. What will I choose? Living on the corner, better and stuck. What will
Better in Stock de Seeds. Jean-Sébastien Laliberté, j'ai été... Oh boy, mon fauteuil vient de descendre d'à peu près... Ça, c'est vive le direct.
Non, t'es tellement pas le premier à qui ça arrive de s'enverger les cuisses avec les manettes en dessous de la chaise et tout d'un coup, le fauteuil change de hauteur.
Tout à fait. C'est dommage que ce soit pas du vidéo. Je l'ai pas vu passer, cet album-là. Moi, qui était un fan de Betty and Steph, ça date de 2015. Je suis tombé là-dessus. En fait, c'est Apple Music qui m'a envoyé dans ma petite liste chill. Ils ont dit, Luc, tu vas aimer ça. Et qui ont raison. Savais-tu que toi, le connaissais-tu, cet album-là?
Pas du tout. J'en ai fait jouer très récemment. Et puis, non, j'avais pas eu connaissance que ce disque-là était sorti. Il est passé totalement en dessous de mon radar.
Ben, voyons donc. Puis là, ben, ils ont probablement dit, oh, on n'a pas vendu, on va arrêter. Avoir su... Vous n'auriez vendu.
Marketing, les amis.
Oui, ben j'avais eu vent d'un album, genre de... pas de reprise, mais tu sais, un...
Des remixes, oui.
Oui, un succès, là. De, moi, je pensais que c'était uniquement ça, mais bon. Alors, Better in Stock, l'album Seeds, c'est vieux, c'est 2015, mais ça sonne très, très bien. Puis,
vieux,
c'est,
vieux.
Non, mais dans
vieux
le sens,
même,
c'est pas récent, là. Tu sais, j'en parle comme si c'était... Mais bon, quand c'est bon, c'est bon. Émilie Hervieux, bonjour.
Bonjour.
Bon, vous êtes plus jeune que moi. Peut-être que vous, le genre Betty and Steph, vous devez être dans le hip-hop, trip-hop. Vous, c'est-tu...
Non, j'ai une vieille âme, c'est bon.
Okay.
On est dans les mêmes cordes.
Vous êtes conseillère principale marketing thing du côté du Centre Seagull.
Exact.
Qui offre sa première représentation avec audio description. On est le 16, donc lundi prochain, le 23.
Mm-hmm, exactement.
C'est un spectacle qui s'inscrit dans une démarche plus large pour rendre vos activités accessibles. D'ailleurs, Christiane m'a dit que le site du Centre Seagull était passablement accessible. J'ai pas été fin, j'ai pas été voir pour justement avouer ou en tout cas comparer. Mais effectivement, là, il y a vraiment une volonté de rendre le théâtre accessible à tous chez vous.
Il y a définitivement une volonté. C'est un gros projet. C'est un gros projet qui a été entamé il y a longtemps. L'accessibilité est dans nos pensées depuis longtemps. L'accessibilité physique a été considérée quand le bâtiment a été construit.
Ouais. Mais, on est un peu obligé.
Exactement. Ouais. Mais plus récemment, on a commencé il y a quelques saisons à faire des représentations interprétées en langue des signes, okay. Entre autres. L'année dernière, on a eu une belle subvention du Conseil des arts qui nous a permis de tester notre première représentation décontractée, qui sont des représentations...
C'est quoi, on va s'habiller, on y va en jogging ou avec des pantoufles?
Oui!
Pour vrai?
En fait, vous pouvez faire ça n'importe quand, il n'y a aucun standard. Mais ces représentations décontractées-là visent à rendre l'environnement théâtral plus confortable pour les gens qui ne seraient peut-être pas confortables dans un environnement régulier, c'est-à-dire les gens qui ont peut-être des hypersensibilités sensorielles, les gens sur le spectre de l'autisme, mmh. Les gens qui ont des familles avec des jeunes enfants. On ajuste la production, entre autres. S'il y a des bruits très forts, on ajuste la luminosité.
On aurait voulu qu'on n'aurait pas mieux tombé, étant donné qu'on vient tout juste de parler de d'hypersensibilité et des magasins Sobeys qui font un effort.
Oui, j'entendais ça.
C'est OK.
Et puis, on a juste, avec toute la portion accueil aussi, on a des espaces de détente ou des coins plus tranquilles pour les gens qui ont besoin de se retirer. Le mouvement est permis dans le théâtre. Le bruit est plus permis aussi. Okay. Les acteurs, les comédiens sont au courant là, de la situation. Donc, tout est ajusté en conséquence pour permettre aux gens d'être qui ils sont.
À un point où même on permet aux parents avec des enfants qui pleurent de rester dans la salle?
Écoutez, j'étais là avec mes enfants et ils ont parlé et je suis restée dans la salle. Alors c'était permis.
Hey, quand la conseillère principale reste là, la fatigante avec ses enfants, là vous les regardez en disant oui, mais c'est une pièce spéciale.
Ça prend quand même un moment pour s'y habituer.
J'imagine. Parlez-moi de la pièce. C'est quoi, c'est Two Pianists?
C'est The Pianist of Willesden Lane.
OK.
Alors, c'est une pièce qui est basée sur le livre The Children of Willesden Lane, qui a été écrit par Mona Golubek. Oui, Mona Golubek et Lee Cohen.
Je cherchais mon micro. Vous pensiez que je vous faisais signe, hein?
Oui.
Oui, c'est ça. Non, je cherchais mon micro.
Donc, Mona est la comédienne principale. C'est un spectacle solo. Et puis, elle est là, sur scène, avec son grand piano de concert Steinway, et elle nous raconte un récit musical de l'histoire de survie de sa mère.
Okay.
Alors, sa mère, Lisa Jura, excusez ma prononciation,
ça va.
Qui est une grande, grande, grande pianiste qui a grandi, en fait, durant la Deuxième Guerre mondiale et qui a reçu un billet dans sa famille. Il y avait un seul billet pour les trois filles, pour le Kinder Transport, pour s'échapper de Vienne durant le régime nazi. Exact.
Ouais.
Et puis, elle a donc été l'élue parmi ses sœurs et elle a été, sauvée.
Est-ce que les sœurs ont perdu la vie?
Écoutez, il faudra voir la pièce pour le savoir.
C'est parce que je me dis, quelle culpabilité si jamais les sœurs passent pas au travers.
Oui, tout à fait.
J'imagine que si elle a écrit la pièce, c'est que... Aïe, aïe, aïe.
Oui.
Bon, avec ce que vous me décrivez, je vous dirais que la personne qui va s'occuper de l'audiodescription ne travaillera pas fort. Il y a une pianiste qui nous parle... Elle a des pantalons noirs, une blouse blanche. Mais qu'est-ce qu'il y aura à dire?
Il y aura... il y a beaucoup parce que... pour nous, en fait, c'est beaucoup parce que c'est un projet pilote.
Okay.
Donc, on voulait vraiment... on veut devenir accessible pour tous le plus rapidement possible, mais on veut surtout bien faire les choses. Et puis, cette pièce était, en fait, le contexte idéal pour tester l'audiodescription, la théâtrodescription. Et puis, Julie Barbeau, qui est elle-même comédienne, est là avec sa magnifique voix à nous raconter l'ambiance, à nous raconter les décors. Il y a des projections aussi sur scène. Alors, il y a tout ça qui se raconte durant les pauses. Puis, étant donné qu'il y a des plus longues pauses et que c'est un spectacle solo, c'est encore plus accessible et possible. En fait.
La pièce dure combien de temps?
90 minutes sans entr'acte.
20 heures?
À 19h, le 23.
Ça, j'aime ça.
Oui, on a changé l'heure, justement.
Je trouve que, justement, les shows, là, on se couche tôt. On va arriver à la maison pour les nouvelles.
C'est vrai.
Ouais. Bon, j'ai vu d'autres pièces en théâtre de description où on invite les gens qui utilisent l'application à arriver un petit peu plus tôt parce qu'il y a des informations à transmettre qu'on ne veut pas transmettre durant la pièce. Est-ce que c'est le cas?
C'est le cas.
OK. Donc, on arrive à quelle heure?
En général, on aime que les gens se présentent 30 minutes à l'avance, que
d'accord.
ce soit pour récupérer les billets, faire tout ce qu'il y a à faire. On a un beau petit bar dans notre lobby. Bon. On peut prendre une consommation.
J'ai dit qu'elle était en charge du marketing.
Et puis donc, on a des experts qui vont être présents sur les lieux pour aider les gens à télécharger l'application si ce n'est déjà fait, puis à les guider.
L'application Connect?
Mobile Connect.
Mobile Connect.
Exactement.
Okay.
On travaille avec Connecté. Je pense que vous avez d'ailleurs déjà reçu Sylvain Noël ici à l'émission.
Oui, oui.
Donc, on travaille en collaboration avec eux.
Mais je pense que j'ai supprimé l'application depuis parce que c'est tellement pas fréquent qu'à un moment donné, tu l'enlèves puis tu sauves de l'espace dans ton téléphone. Alors, il faudra la retélécharger parce que je pense bien y aller. D'ailleurs, c'est la seule représentation, je pense, dans le genre.
C'est la seule représentation
donc, faut
dans
le
genre
23, là.
Parce que c'est un projet pilote.
Ouais.
Notre intention est d'avoir un très grand succès avec ça à l'interne et puis après ça, de pouvoir le reproduire à maintes et maintes reprises.
Oui, parce qu'une fois qu'on enregistre le live de la première, j'imagine qu'on peut faire jouer la bande par la suite, non?
En fait, c'est toujours en direct.
Oui, je sais, mais est-ce que c'est nécessairement toujours en direct? Est-ce qu'on peut pas, un peu comme un film, faire jouer la bande... pour les autres soirs, pour éviter le salaire de Julie Barbeau chaque fois?
Ça serait probablement une possibilité. Par contre, le théâtre est magnifique parce que l'expérience live du théâtre est toujours changeante. Alors, okay. C'est très, très, très difficile de faire jouer quelque chose d'aussi précis et d'éviter, en fait, les ajustements qui sont faits sur scène. Parce que d'une représentation à l'autre, tout change. Il peut y avoir quelqu'un dans la salle qui a une réaction quelconque. Ça aussi, ça va être expliqué par la narratrice. Alors, c'est vraiment une réaction en direct de ce qui se passe sur la scène et dans la salle qui va être expliquée au spectateur.
Et dans la salle?
Mm-hmm.
OK. Il y en a une qui pogne les nerfs, elle se lève, elle donne un coup de parapluie à son voisin. Ou...
Ben écoutez, je ne sais pas à quel point ce sera en détail. Il faudra voir.
La marque du parapluie. Le coup, c'est le même prix, j'imagine, que ce soit... Puis ce soir-là, parce que je sais qu'il y a des pièces qui sont pour les personnes sourdes également, que ce soit avec de l'ASL ou...
Mm-hmm. Tout à fait.
Ça, est-ce que l'ASL, c'est un soir aussi ou...
Alors, l'ASL, on le fait pas pour toutes nos pièces parce que pour l'instant, c'est pas toujours possible au niveau artistique.
Okay.
On l'intègre quand c'est possible. Donc, c'est un soir habituellement. C'est souvent le dernier samedi. Nos pièces roulent pour 3 semaines. C'est souvent le dernier samedi pour permettre aux...
Ils sont chanceux, eux, c'est le samedi.
Oui.
Nous, c'est le lundi. Mais bon, on se plaindra pas, là. Bravo pour l'initiative. Puis un jour, je comprends que ce sera les soirs de grand public. Bon, c'est combien? Est-ce qu'il reste des billets pour lundi prochain?
Il reste des billets. Les billets partent vite. Les billets sont à 67 $ au prix régulier, okay. Mais on a des tarifs accessibilité. Et puis, les personnes de soutien, les accompagnateurs, ont aussi un rabais. Alors, appelez la billetterie et puis regardez...
Comment qu'on fait pour dire qui est l'accompagnateur quand on y va, deux personnes aveugles ensemble?
C'est une très bonne question, ça. Ouais. Vous alternez. Une fois, c'est un, l'autre fois, c'est l'autre.
Mais on peut quand même... Mais donc, j'entends que deux personnes aveugles, c'est pas... Un peut accompagner l'autre. C'est pas comme... Parce que c'est trop facile de dire « Moi, je vois, donc je paye pas. »
Oui, oui. Tant et aussi longtemps que vous vous soutenez.
belle initiative, en tout cas. Merci beaucoup, Émilie Hervieux.
Merci.
C'est donc lundi prochain. Redites-moi le titre encore de la pièce.
« The Pianist of Willesden Lane ».
Santiago, c'est sur quelle rue?
C'est sur Côte-Sainte-Catherine, juste à côté des Caries.
Mon Dieu que c'est loin. En tout cas, ça dépend d'où
c'est
on part.
Super accessible en métro. Côte-Sainte-Catherine ou Snowdon.
Elle est conseillère en principale en marketing. Christiane s'en vient, revue de presse après la pause.
Vous écoutez Accès libre.
Sur la question de produits accessibles, il y a une maman qui a décidé de se lancer en affaires. Elle est sa propre patronne, Marie-Christine Goupil, avec les produits Handy, H-A-N-D-Y, qu'on va également parler de maisons de répit, qui sont un grand besoin, particulièrement pour les adultes avec un trouble du spectre de l'autisme. Mais Christiane vient faire son tour. C'est le moment de la revue de presse.
Bonjour.
Allô, allô. C'est vrai que j'ai pas dit Christiane Campagna.
Oui, Luc Fortin.
Oui. On fera ça tantôt.
D'accord. Eh bien, il y a le New York Times qui nous parlait récemment d'un musée londonien, le Wellcome Collection. C'est Wellcome avec deux L, c'est probablement le nom d'une personne, dédié à l'histoire de la science et de la médecine. Et ce musée se démarque récemment par son accessibilité. Alors, ils ont une nouvelle exposition et voici des exemples d'aménagements que ne remarqueront pas nécessairement les visiteurs moyens, mais qui rendent le musée plus accueillant pour les personnes en situation de handicap. La base des vitrines est conçue pour être en contraste avec le plancher, pour que l'obstacle soit plus facilement remarquable. Uh-huh. Ensuite, les bancs sont placés de façon à ne pas nuire aux personnes en fauteuil roulant, mettons le banc devant une œuvre ou devant une vidéo, pour ne pas faire en sorte que la personne en fauteuil roulant soit obligée, elle, de se mettre plus de côté.
Ouais, en angle. Ouais, c'est pas fou, ça. Ça paraît évident, là, mais il faut y penser.
Oui, bien voilà. Il y a des guides visuels et audio qui sont mis à la disposition des visiteurs malentendants ou malvoyants. Il y a aussi un guide disponible en British Sign Language et des exemplaires, des artefacts qui sont disponibles pour être touchés par les visiteurs.
Ah, oh, OK.
Alors, l'exposition s'appelle Being Human et elle vient d'être inaugurée. Elle est considérée par certains activistes et chercheurs en Grande-Bretagne comme l'espace muséal le plus accessible jamais ouvert dans ce pays.
Tu dis c'était dans quelle ville, Christiane?
C'est à Londres.
À Londres, OK.
Oui. Il y a Richard Sandel du Centre de recherche sur les musées et les galeries de l'Université de Leicester qui a dit que ça change vraiment la donne et que non seulement parce que le design est accessible, mais aussi grâce à l'exposition elle-même, à l'approche de mise en valeur, puisque de nombreuses personnes en situation de handicap désertent les musées sur la médecine parce que, justement, la médecine a tendance à les considérer comme des patients à guérir, tandis que dans le cas de cette exposition-là, il a plutôt considéré qu'on mettait leurs histoires au premier plan.
Donc, il y a l'aspect accessibilité, mais il y a l'aspect également contenu de l'exposition qui est quelque chose d'attrayant pour la personne vivante en situation de handicap.
Voilà, exactement.
Mais ce qu'on comprend, c'est que dans ce musée-là, la personne ne vit pas une situation de handicap. Donc, oui. Comment on l'appelle, cette personne-là? Une personne?
Ben, sans doute. C'est comme un chinois en Chine, c'est ça? Oui. Ah, c'est une vieille blague de Friends que j'ai déterrée, okay. Là.
J'aurais, tu m'aurais dit pas les poils, j'aurais dit, ah oui, c'est le genre.
Un article d'Insider, lui, nous apprend que les logements sociaux à New York sont confrontés à une grande vague de pannes d'ascenseurs dans toute la ville.
Bon.
C'est un vrai grand problème pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Une enquête a révélé qu'il y a eu plus de 44 000 pannes d'ascenseurs dans les 2351 bâtiments de logements sociaux de la ville de New York en 2018, ce qui correspond à environ 121 pannes par jour.
C'est fou!
En moyenne, ces pannes ont duré environ 12 heures chacune.
Aïe, aïe, aïe!
Alors, pour les personnes en fauteuil roulant, ben ça signifie soit rester pris dans son appartement, si vous y étiez déjà, mais sinon, ça peut aussi être pris dans le hall d'entrée en attendant les ascenseurs soient nouveaux, fonctionnels.
J'ai ta nièce, là.
Avec une petite pensée pour notre collègue Kevin Breton, qui avait manqué sa première participation à l'émission Au quotidien, qu'il coanime maintenant le vendredi, parce qu'il y avait une panne d'électricité dans l'immeuble où il habite.
Sûr que c'est vrai, ça? Oui, c'est pas parce qu'il est passé tout droit.
Le site InfoPan donne raison à Kevin.
D'accord, merci Jean-Sébastien.
Et puis, bien, sur une note plus légère, il y a une émission en France, il y a beaucoup de concours de cuisine à la télé. Il y en a une qui s'appelle Le meilleur pâtissier. Et l'émission va accueillir sa première candidate en situation de handicap. Elle s'appelle Sophie Schalkend. Et elle s'est découvert une passion pour les gâteaux, justement, depuis un accident qui a fait qu'elle se déplace maintenant
sur ce
roue-là. Bien, c'est parce que c'est la nouvelle passion qu'elle s'est découvert. Elle pratiquait plus son métier. Elle avait besoin de se concentrer quelque part. Et c'est elle qui a pris les devants. Elle a envoyé un message via les réseaux sociaux à la production. Elle a dit « Je n'ai jamais vu de personne en situation de handicap dans Le meilleur pâtissier. Est-ce rédhibitoire? » J'ai oublié de chercher la définition
ben
de ce
oui,
mot-là.
Ben
oui. Et trois semaines après, elle a reçu un coup de fil. Ils ont jasé un peu avec elle. Et au bout de 40 minutes de conversation, ils lui ont dit qu'elle était sélectionnée. Elle ne savait même pas qu'elle était en train
seulement
de passer
minutes.
Une entrevue.
Wow. Ouais. Jean-Sébastien, rédhibitoire, s'il te plaît, pendant que Christiane finit son article.
Alors, elle a dit qu'elle a été directe avec la production. Elle lui a dit « Si vous me prenez parce que je suis handicapée, je ne suis pas d'accord.
Bon. »
Ce à quoi on m'a répondu « C'est un concours. Il va falloir faire vos preuves grâce à vos préparations culinaires. » Par contre, on a mis toutes les adaptations nécessaires pour que ce ne soit pas un enjeu pour elle, quelque chose qui va la désavantager par rapport à d'autres concurrents. Donc, une adaptation du plan du travail, de l'accessibilité des studios, mais aussi des petits détails. Elle aura droit à une certaine assistance. Et comme elle porte un électrostimulateur médulaire, elle n'utilisera pas de plaque à induction.
Ah, OK. Mais en même temps, on peut comprendre que pour l'émission, là, c'est un beau tape à l'œil. Je veux dire, tu changes le décor, les journaux en parlent, donc c'est une belle visibilité de un, de deux. C'est comme si madame dit on veut la parité dans les cabinets ministériels, sauf que si vous me prenez parce que je suis une femme, je suis pas d'accord. Ben non, c'est comme...
Ouais, bon, mais c'est quand même un peu la preuve
est-ce,
que...
Est-ce qu'elle a pris du poids depuis qu'elle a découvert sa nouvelle passion?
C'était pas mentionné dans l'article. Okay. Mais c'est peut-être par contre une preuve que parfois, les gens n'y pensent pas, donc il faut un peu prendre les devants pour les réveiller, mais que si on leur fait penser, ils vont accueillir une personne en situation
tout à fait. Rédhibitoire?
Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qui constitue un défaut, un empêchement absolu radical. Par exemple, un petit rédhibitoire, comme dans le cas de ce pharmacien américain qui avait fait passer les comprimés de 7 à 750
Boy, j'ai manqué
ce qui empêchait les gens de pouvoir acquérir leur médication.
Ben, puis lui d'en vendre.
Et sinon, vice rédhibitoire, défaut qui peut motiver l'annulation d'une vente. Et rédhibitoire, en anglais, c'est le mot crippling qu'on voit peut-être plus souvent.
Oui, surtout dans le handicap.
Et voilà.
Crippled. Voilà. Oui, OK. Aviez-vous terminé, Mme Campagna?
Oui, j'ai terminé, M. Fortin.
Bon, mais pour ceux qui nous écoutent en direct, Christiane va revenir dans à peu près 30 minutes, 25 minutes. Pour les autres, il faudra vous abonner à une autre émission. Est-ce qu'on a notre invité par téléphone ou on s'en va en musique?
On s'en va, notre invité par téléphone, Mme Plourde est déjà là.
Bonjour, Lily Plourde.
Bonjour.
Je trouve ça très beau comme nom, Lily Plourde. Je trouve que ça fait joli, ça fait souriant. Vous êtes directrice générale de Autisme Québec. Est-ce que Autisme Québec, dans ce cas-ci, c'est la ville ou la province?
C'est la ville.
D'accord. Bon, je m'en vais tout de suite à ma dernière question parce que je me souviens, c'est la question que j'ai ajoutée qui avait suscité mon intérêt pour l'entrevue, à savoir la réalisation que des personnes avec un TSA se retrouvent dans une ressource qui n'est pas toujours appropriée comme des ressources pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Et apparemment que de plus en plus, puisqu'on est en manque de maisons de répit pour les adultes avec un TSA, on est obligé de les combiner justement. Et à quel point c'est répandu?
En fait, c'est pas nouveau.
Ah non, okay.
Ça a toujours été. Historiquement, les résidences sont basées sur des modèles pour les personnes avec une déficience intellectuelle. Quand les centres de réadaptation en déficience intellectuelle ont pris le mandat des personnes autistes, les modèles résidentiels sont restés un peu les mêmes.
Okay.
Donc, là, on a eu deux plans d'action. Les choses changent, mais il y a encore beaucoup de modèles résidentiels qui répondent pas aux besoins des personnes autistes.
Le néophyte dirait, oui, mais les employés qui sont habilités à aider un groupe de clientèle sont souvent capables d'aider plusieurs types de clientèle atypiques, mais c'est pas ça le problème.
Ben oui, le manque de formation est un problème.
OK.
Parce que effectivement, les gens, tout dépendant du modèle résidentiel. Okay, c'est un petit peu variable d'une région du Québec à l'autre, mais c'est assez semblable généralement. Il y a des résidences de type familial, des résidences intermédiaires, puis des résidences à assistance continue.
Oui, c'était ma prochaine question. On les établira un après l'autre. Ouais.
Là, les gens qui travaillent dans ces milieux résidentiels-là ont des profils différents selon le milieu résidentiel.
Okay.
Et souvent, justement, c'est un manque de formation du personnel qui travaille dans les résidences qui font que pour travailler avec des personnes autistes, il faut utiliser des méthodes d'intervention qui sont très spécifiques aux personnes autistes. Donc, si les personnes ne connaissent pas ces modèles-là, ces méthodes-là, ils lisent pas les plans d'intervention, ben souvent, c'est pour ça qu'on finit avec des résidences qui répondent pas aux besoins des personnes.
Ouais. Est-ce que je me trompe aussi en disant que c'est probablement l'interaction entre les locataires qui est aussi un problème?
Si les profils sont mal jumelés, c'est effectivement, ça peut être un problème.
Ouais. Ouais. Bon, parlons justement des ressources intermédiaires, les ressources de type familial. Pouvez-vous m'expliquer et me définir chacun?
Okay. Une résidence de type familial, ça le dit, c'est quelqu'un, vous, moi, n'importe qui ouvre une résidence,
okay.
Qui a un contrat avec son centre de réadaptation, son CIS ou son CIUS maintenant, et qui héberge de 4 à 8 personnes, là, je vous donne un chiffre qui est une moyenne, là, et qui héberge des personnes, dans notre situation, des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme.
OK. Donc, et ça, c'est hébergement à temps plein, là, c'est pas du répit.
Non, c'est pas du répit,
d'accord.
C'est à temps plein,
ouais.
Les personnes sont là. Par contre, les parents peuvent dire, bon, moi, je vais chercher mon enfant une fin de semaine par mois.
Ouais, OK.
Je vais chercher son enfant, il l'amène à la maison. Ça, le personnel, c'est la personne elle-même qui décide ou non de s'engager du personnel pour la soutenir dans au quotidien.
J'imagine qu'elle a approuvé l'expertise de son entreprise, là, que les clients, que les comment on les appelle?
Les résidents.
Les résidents, voilà, sont entre bonnes mains.
Ben, la personne prend une entente avec son CIUS ou son CIS et doit répondre à certains engagements, mais n'a pas nécessairement la formation nécessaire pour s'occuper de personnes autistes.
Ah, OK.
Et les personnes autistes qui vont en résidence de type familial sont les personnes avec des besoins légers.
Oui, OK, je comprends. Okay.
Résidence intermédiaire, c'est un peu le même profil, mais on rajoute des heures avec un éducateur selon les besoins des personnes à la résidence. Fait que si, par exemple, on dit, ben moi, j'ai 6 personnes autistes qui sont tous à l'école, j'ai besoin d'un éducateur pour faire les retours à la maison.
Quand vous dites les retours, on parle du transport?
Après l'école, non. Pour une fois qu'ils sont à la résidence. Mettons, les 6 reviennent de l'école à 4 heures.
Oui.
Fait que là, elle peut avoir un éducateur avec elle pour l'aider dans certaines activités jusqu'au dodo.
OK, parfait.
Je vous dis un exemple.
Ouais.
Ça peut prendre plusieurs formes. Et les résidences à assistance continue, ce sont du personnel du centre de réadaptation qui ont des corps de travail, là, comme à l'hôpital, là, 8 à 4, 4 à minuit, minuit à 8.
Ouais.
Et là, souvent, on parle d'éducateurs. Mais si vous allez voir le programme d'éducation spécialisée dans les cégeps, on ne parle pas d'autisme pendant 3 ans de temps. Là.
Oh, OK.
Fait que, tu sais, on en parle à travers de tout plein d'autres besoins. Donc, souvent, les personnes qui vont arriver en RAC n'ont pas nécessairement les connaissances nécessaires. Ils vont faire l'apprentissage, oui, mais au moment où ils arrivent, ils n'ont pas nécessairement l'apprentissage de fait, les connaissances nécessaires pour travailler avec des personnes autistes.
Résidence en assistance continue, j'imagine, c'est du temps plein?
C'est du temps plein.
Ouais,
tous les modèles résidentiels, c'est du temps plein. Comme je disais, même en résidence, assistance continue, si le parent dit, je vais aller chercher mon enfant une fois par mois.
Ouais. Sauf que s'ils vont à l'école, je veux dire, il y a comme un petit... On n'a pas besoin d'éducateur le jour.
Ben, ça dépend, parce que le dossier scolaire, ça, c'est un autre dossier. Mais il y a beaucoup, souvent, en RAC, ce sont des jeunes avec des grands besoins. Okay. Puis, ils ne sont plus nécessairement à l'école. Ça peut arriver qu'il ait été expulsé de l'école ou suspendu. Puis là, on parle des enfants. Les adultes, c'est ils vont aller en milieu socio-professionnel. Ça, ça peut prendre plusieurs visages aussi. Mm-hmm. Plateau de travail, centre de jour, etc. Mais encore une fois, il y a des listes d'attente partout. Puis les services ne sont pas égaux à grandeur du Québec. Fait que il y a certains endroits que les personnes n'ont pas du temps plein comme activité socio-professionnelle.
J'ai vu qu'il y avait des logements privés avec des services de réseau de la santé et des services sociaux?
Ben oui, il y a beaucoup... ça, je ne connais pas assez la situation dans toutes les régions. Là. Il y a des projets qui démarrent, qui sont des projets privés. Comme nous, ici à Québec, on a un groupe de parents qui a un projet résidentiel. C'est un groupe de parents que justement, est un petit peu tanné d'attendre après le réseau public. Ce que le réseau public avait à leur offrir ne correspondait pas aux besoins de leur enfant.
Ouais.
Fait qu'eux ont décidé de mettre sur pied un projet résidentiel. Puis ça commence à apparaître dans plusieurs régions du Québec. Là. Sauf que c'est long négocier des ententes, c'est long faire. Puis ça, encore une fois, ça retombe sous les épaules des parents.
Mais ça, Lily Plourde, c'est une bonne ou une mauvaise approche? Parce que je remarque, bon, il y a des lieux qui sont mis sur pied par des parents, il y en a d'autres qui sont mis sur pied par des fondations, il y en a d'autres qui sont probablement mis sur pied par le service, le soutien public. Donc, il faut qu'il y ait de la coordination. C'est une bonne idée que tout le monde se lance chacun dans sa direction?
Moi, je vous dirais que les parents le font parce qu'ils n'en peuvent plus, comme pour bien d'autres choses, en désespoir de cause. Par contre, le projet de Québec, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il fasse école parce que c'est un projet qui est monté spécifiquement pour les personnes autistes. Fait qu'on espère qu'une fois qu'il va être sur pied, que les jeunes vont être dedans, qu'on va démontrer que c'est ce genre de service-là que ça prend, c'est ce genre de service résidentiel-là que ça prend pour répondre aux besoins des personnes autistes. Parce que des fois, là, ça ne coûte pas plus cher mieux faire différemment et mieux. Okay? Ce n'est pas nécessairement une question d'argent, c'est une question d'implanter les modèles. Puis le projet de Québec qui s'appelle Intégration Espace Vie TSA, c'est vraiment un projet extraordinaire qu'on espère vraiment qu'on va démontrer avec ça. Je dis « on », là, je ne suis pas là-dedans, mais on espère vraiment là, que ça va démontrer qu'en ayant l'environnement et les services nécessaires, on va atteindre des meilleurs résultats pour le développement des jeunes.
Ouais. Maintenant, est-ce que ce projet-là, parce que plusieurs pourraient dire « ouais, mais si on peut inclure les deux clientèles, ben ça va sauver des coûts, ça va accélérer l'intégration, puis en même temps, c'est peut-être une bonne idée que l'un puisse cohabiter avec l'autre pour apprendre de l'autre. Est-ce que c'est envisageable de continuer à mixer des clientèles? »
Ça dépend toujours de ce qu'on fait comme mélange. Je vous dirais que les personnes autistes, des fois, c'est difficile de les mélanger avec d'autres groupes. Des fois, ce qui marche en autisme, ce qui marche avec les autres ne marche pas en autisme. Ce qui marche en autisme marche avec tout le monde. Je vous dirais qu'on pourrait mettre dans une résidence pour personnes autistes une personne avec une déficience intellectuelle qui correspond un petit peu au profil. Mais il manque tellement de ressources.
Ouais, ouais.
Moi, ici, j'ai des parents que ça fait 12 ans qu'ils attendent pour un milieu résidentiel.
C'est énorme.
Tu sais, fait qu'il faut développer des modèles. Il y a déjà des modèles existants qui peuvent répondre aux besoins pour certaines personnes. Il y a des résidences de type familial qui font absolument l'affaire pour les personnes autistes. Tu sais, c'est juste que quand on tombe dans le pointu, dans le précis, dans des profils qui on sait moins comment réagir, comment intervenir, c'est là qu'il faut vraiment développer des modèles qui sont précis et qui répondent aux besoins des personnes. Fait que la mixité, on parle pas, tu sais, j'entends souvent, on crée des ghettos. Ça dépend, c'est sûr qu'on parle pas de déficience, de handicap physique, là. On parle de personnes autistes avec des grands besoins, mm-hmm. souvent dans le cas des milieux résidentiels. Fait qu'on parle pas de ghetto, on parle d'aménager un environnement qui va répondre aux besoins puis qui va permettre à la personne de s'épanouir puis de continuer de faire des apprentissages. Parce que souvent, là, quand il y a des problèmes de comportement qui apparaissent à l'âge adulte, parce que les milieux résidentiels et les milieux socio-professionnels répondent tellement pas aux besoins, ouais. soit la personne est trop oisive, on développe des comportements ouais. qui n'étaient pas là mmh. avant. T'sais, puis nous ici, on parle jamais d'agression, hein? On parle d'une mauvaise méthode de communication. Parce que donnons les services nécessaires aux personnes, puis ils vont moins se désorganiser. Fait que c'est pour ça que nous, on prône beaucoup, beaucoup les services spécialisés typiques aux personnes ouais. autistes.
Ben, on va suivre le projet, en tout cas. Bravo pour l'initiative, Lily Plourde, qui est directrice générale de Autisme Québec. Puis, oui, effectivement, vous avez raison. La semaine dernière, on recevait des gens qui ont démarré une maison du côté de Anjou, ici à Montréal. Eux voyaient pas comment faire autrement que d'accueillir une clientèle mixte, justement, pour avoir un peu plus de soutien, parce que ben c'est peut-être un peu mieux vu. Plus on accueille de monde, plus des fois les bailleurs de fonds sont contents. Mais j'entends tout à fait ce que vous dites. Lily Plourde, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Jambes qui tremblent quand elle pense trop fort. Adèle, l'histoire en avance quand sa tête se tord. Elle a les yeux mouillés. Adèle est tellement à faire et refaire. Et que tout soit dentelle. Adèle, il faudrait partir voir la mer. Mais Adèle, oh oh oh, devrait courir déshabillée. Avec toi, avec elle, avec tout, Adèle ne peut plus rester enveloppée. Adèle ruisselle l'hiver quand l'attente se fait longue, longue. Adèle espère la chaleur à venir entre ses jambes. Elle dit mais j'ai plus l'envie de cette mascarade futile, du mascara indélébile. Coulisse qui tâche et persiste pour être belle et fragile.
Musique d'Ariane Roy avec Adèle Marie-Christine Goupil. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice des productions adaptées Handy, H-A-N-D-Y. On vous entendait la semaine dernière du côté de Michel avec les Capés à Québec. D'ailleurs, c'est pas mal plus près de votre coin de pays, vous, Québec, puisque quoi, vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent, quelque chose comme ça?
Non, sur la rive sud de Québec, dans okay. Bellechasse.
Bon, vous êtes collé-collé. Peut-être nous expliquer les besoins physiques de votre fille qui ont fait en sorte que vous vous êtes dit, là, il faut que je parte ma business, j'ai besoin de produits particuliers pour répondre à ses besoins physiques.
Oui. En fait, moi, ma fille Jeanne, elle ne marche pas. Donc, elle a aussi un petit manque de tonus, ce qui fait qu'au niveau de l'habillement, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, imaginez un enfant de 6 ans qui se tient debout, mettre un habit de nage deux pièces, c'est vraiment facile.
Ouais.
Moi, j'avais besoin d'un habit de nage qui soit facile à enfiler pour ma fille qui ne se tient pas debout et qui ne peut pas vraiment m'aider pour l'habiller. L'inspiration est vraiment venue des besoins de ma fille. Puis, en même temps, je constatais sur les réseaux sociaux que c'était toujours les mêmes questions au niveau de l'habillement pour les parents qui revenaient. Les anciens parents, les parents plus expérimentés répondaient aux nouveaux parents. Puis je me suis dit, il y a clairement un besoin. Il y a clairement des produits sur le marché qui ne sont pas adaptés pour une certaine clientèle.
C'est ça, il y en a pour adultes, mais il n'y en a pas beaucoup pour enfants.
Oui, c'est ça. Puis en bas de 4 ans, donc, on est capable de se satisfaire avec ce qui existe chez les bambins. Là. Mm-hmm. Mais dans le 4 à 17 ans, il y avait comme une zone grise qui n'avait rien pour nos enfants. Puis moi, je me suis dit, j'ai eu la piqûre pour l'entrepreneuriat, puis je me suis dit, ça y est, je vais développer la gamme pour répondre à nos besoins puis à ceux de plein de parents, parce que si moi, je le vis, c'est sûr qu'il y avait d'autres parents aussi qui le vivaient.
Bon, justement, Marie-Christine, peut-être juste expliquer quelque chose. J'ai compris dans votre entretien avec Michel que, vous disiez, je n'ai rien inventé, mais en même temps, je produis tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que vous produisez des choses... Vous avez pris l'idée ailleurs et vous le faites à votre main, c'est ça?
Non, en fait, c'est que les gens, ce que j'ai cru comprendre de ça, c'est que les gens, ils comprennent pas dans le sens que le vêtement adapté, vous savez, il existe déjà chez l'adulte.
Ouais.
Hein? Fait que c'est un marché qui existe pour l'adulte. Donc, moi, les housses pour fauteuil roulant, là, j'ai pas inventé ça.
Je comprends, OK.
Un peu comme, par exemple, quand la couche lavable évolutive est apparue, tout le monde s'est mis à faire des couches lavables évolutives parce que c'était merveilleux.
Okay.
Fait que c'est un peu la même chose là, pour moi. Donc, j'ai pris des produits, je les ai refaits à ma façon à moi, avec des tissus que moi, je trouvais qui étaient beaux pour nos enfants, avec des détails qui sont personnalisés, dans le fond, à ma création, pour ensuite les adapter à la clientèle là, d'environ 4 à 17 ans.
Bon, moi, qui suis aveugle, je peux pas voir les photos sur le site de Handy. Alors là, je vous donne 90 secondes. Faites-moi votre pitch de vente. Là. Quel produit vous avez?
En fait, on a une collection pour les personnes qui ont une gastrostomie. Là-dedans, vous pouvez trouver un cache-couche qui a une ouverture ventrale pour avoir un accès facile à la gastrostomie. Puis en même temps, ça permet de cacher la couche dans le dos de notre enfant, puis de ne pas toujours exposer son ventre là, quand on doit lever le chandail pour donner l'alimentation.
Okay.
On a aussi une brosse qui permet de nettoyer la tubulure,
qui permet de faire
l'alimentation.
Oui.
On a des tampons absorbants parce qu'une gastrostomie, ça fuit toujours un petit peu, là, ça vient humide. Donc, le tampon, il vient absorber l'excédent d'humidité. Puis, on a des bouteilles aussi. Ces bouteilles-là, on est distributeur. C'est des bouteilles dans lesquelles on peut mettre de la purée. Donc, pour les enfants qui sont gavés, on peut préparer les repas d'avance, entrer nos seringues d'alimentation dedans directement. C'est étanche, donc c'est vraiment pratique pour les parents.
Mais ça n'existait pas. C'est-à-dire, ça existait pour les adultes, mais pas pour les enfants, vous dites? Parce qu'ils ont besoin de manger. Ils mangeaient avant que vous arriviez avec votre Andy, là?
Oui, dans le fond, cette bouteille-là, ça m'a été recommandé par un parent qui l'utilisait. Sauf que c'est un truc vraiment génial que les parents ne sont pas au courant.
Okay.
Fait que moi, j'ai contacté la compagnie, puis je leur ai dit, j'aimerais ça être distributrice de votre produit. Il est trop génial, il faut que les parents le connaissent.
Ouais.
Fait que je vais participer à faire connaître davantage le produit.
Est-ce que les prix, parce qu'on le sait, lorsque le marché est, disons, réduit, on est obligé de vendre chaque unité plus cher, est-ce que les prix sont raisonnables?
Oui, les prix sont raisonnables. Puis pour moi, quand j'ai fait mon plan d'affaires, ça a été vraiment... j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir à ça parce que moi, je vis la réalité de parents aussi au travers ça. Puis je voulais que mes produits soient accessibles. Puis en fait, dans ma boutique, c'est comme si je rassemble des essentiels à avoir quand tu as un enfant qui a un handicap. Fait que c'est sûr qu'un jour, s'il y a des parents qui confectionnent des trucs vraiment géniaux, je vais peut-être les contacter.
Bien sûr.
On peut les mettre sur ma boutique.
C'est ça. Qu'il y ait un endroit, un genre de guichet unique pour qu'on puisse trouver idéalement tout. Oui, je comprends.
Exactement. Ensuite de ça, on a une gamme de vêtements d'extérieur. Donc, on a un habit neige qui est adapté pour les parents qui sont actifs avec leurs enfants, qui vont pouvoir attacher leur enfant avec dans le bar de taux, qui vont pouvoir les emmener glisser. On a des bottillons souples aussi qui ont un zipper en arrière qui permettent d'entrer le pied facilement. On peut entrer le pied avec un soulier ou une orthèse.
Bonne idée. Je suis obligé de vous laisser aller, malheureusement. L'émission est terminée, mais on va aller sur le HANDY, Marie-Christine Goupil. Merci beaucoup. Jean-Sébastien, merci beaucoup. Puis à vous à la maison, on se dit à la semaine prochaine.